Le temps de l'Avance est inévitablement lié à la figure de Jean le Baptiste au désert. Et c'est très beau de se ressourcer auprès de lui, ce que nous faisons liturgiquement, mais réellement cependant. Le baptême au désert, il est conféré par un homme de Dieu, pas par n'importe qui, c'est pas une simple idéologie, c'est quelqu'un d'appelé et de préparé. Vous savez que depuis sa jeunesse, il s'était rendu au désert. Il ne prêchait pas encore quand il était tout jeune, mais il priait et il se préparait justement à faire entrer les gens dans cette contemplation exactement comme Moïse l'avait fait avant lui. Il porte symboliquement le vêtement des prophètes typique d'Israël, le manteau de poils de chameau, la ceinture. Il invite les gens, et c'est le Seigneur qui nous invite à travers lui, puisqu'il est le messager prophétisé par Isaïe. Ça remonte loin, Isaïe. Et Isaïe avait déjà entrevu et la figure de l'agneau et la figure de celui qui devait le précéder, l'ami de l'époux, dans le Cantique des Cantiques. L'ami de l'époux dans les noces qui avaient lieu en Israël, la célébration de l'amour. Celui qui est le bras droit de l'époux, celui qui organisait la fête, qui allait chercher la bien-aimée pour la confier au véritable époux, au véritable bien-aimé. Et lui précise, moi je ne suis pas digne de délier les courroies de sa sandale. C'est une référence au mariage, ça. Celui qui avait droit d'épouser une femme veuve, qui n'avait pas laissé de descendance en Israël, il fallait donner de la descendance à son frère veuf, à son frère qui était décédé, pardon. Eh bien, symboliquement, s'il renonçait, le suivant qui avait droit déliait sa sandale. Et celui qui renonçait donnait sa sandale symboliquement. Eh bien, là, Jean-Baptiste le dit tout de suite, « Moi, je prépare les chemins du Seigneur, mais je n'accomplis rien. » Pourtant, il accomplit beaucoup de choses à travers un baptême de conversion en vue du pardon des péchés. En vue, pas encore le pardon, mais c'est en vue, ça récapitule toute l'ancienne alliance. Alors pour nous, en ce temps de l'Avent, eh bien il faut nous remettre dans ce contexte-là. Il faut aller au désert, lieu de prière, se retirer dans son oratoire intérieur. Et là, eh bien, se convertir notre cœur. Se convertir à quoi ? La conversion, le désir de la conversion. C'est nous pousse les hommes en général à une attention à la présence de Dieu. C'est le fruit de la conversion. Ce n'est pas encore le don de la présence. Mais au moins, il y a une condition sine qua non que Dieu exige de notre part, c'est l'attention. On pourrait dire, d'une autre manière, le désir. Attention, désir, tout cela, c'est la même chose. La conversion, eh bien, apporte cela. C'est l'espérance qui est liée à l'attention, justement. On espère ce qu'on ne possède pas encore. Eh bien, c'est quoi ? C'est le pardon des péchés. C'est une chose impossible aux hommes. Le pardon des péchés. Le péché, c'est la marque terrible et ineffaçable du mal sur notre cœur, dans notre cœur. Le mal, c'est pire que toute forme de virus, de contagion que nous pouvons imaginer au niveau corporel, parce que ça afflige l'âme. Ça tue en nous la capacité d'aimer, ça tue en nous la capacité de la vérité, ça tue en nous la capacité d'entrer en relation avec Dieu, notre Créateur, notre source et notre fin. Le péché, c'est quelque chose de terrible. Bon, les commentateurs de l'actualité nous en montrent sans cesse des figures, souvent épouvantables. On pense aux camps de concentration, on pense aux ravages de la guerre, aux méfaits de la guerre, à toutes les atrocités qui y sont commises. On pense à toutes sortes d'injustices comme ça. Eh bien, au niveau de l'âme, et personne, évidemment, ne veut endosser de telles responsabilités. On les rejette toujours sur des coupables, voire sur des boucs émissaires, parfois, malheureusement. Et tout ça pour s'en débarrasser, pour dire « Non, moi, je ne porte pas cela, je ne porte pas cette blessure, et pourtant, on la porte bel et bien. » Cette blessure nous fait mal agir, mais pas seulement ponctuellement, les péchés en général, au sens moral du terme. C'est au niveau existentiel, on prend des directions qui ne sont pas justes, qui s'éloignent de Dieu, on invite les autres à se détourner de Dieu. Les hommes et les femmes détournent leurs propres enfants du chemin du Seigneur. Et sans même en avoir vraiment conscience, ils les perdent. C'est ça la marque indélébile du péché. Quelque chose qui nous gouverne. Nous voudrions tellement ne pas être gouvernés par le mal, et pourtant, nous ne pouvons pas y échapper, c'est impossible à l'homme. Mais Dieu est là, et voilà l'espérance de Noël. C'est en vue du pardon des péchés, eh bien, que celui qui précède le Seigneur, cette magnifique figure, eh bien, est envoyé pour aplanir le chemin du Seigneur en chacun d'entre nous. C'est très beau l'image, combler les vallées, combler, aplanir les montagnes, tout ça pour avoir quelque chose de bien droit, qui passe à travers tous les obstacles possibles et imaginables que les hommes dressent entre Dieu et leur âme. C'est le rôle de Jean-Baptiste. Nous allons, en ce temps de l'Avent, mystiquement au désert, auprès de lui, parce que nous désirons rencontrer Dieu. Il faut partir à la recherche de Dieu. Alors il y a cette immersion, le baptême d'eau, l'immersion dans l'eau totale, le corps entier. Ça évoque vraiment une purification de tout l'être. Pas seulement tel ou tel péché qu'on voudrait remettre en peu, qu'on voudrait supprimer de sa vie, des mauvaises habitudes, etc. Là, quelque chose de plus fondamental, de plus entier, de plus global, tout l'être. C'est le mouvement qui doit animer notre désir de conversion, donc pas seulement tel ou tel péché, mais bien plus que cela, l'opposition à Dieu, l'oubli de Dieu, l'inattention à la présence de Dieu, le manque d'amour, bien sûr, de Dieu. Nous voudrions guérir de cela. C'est le temps, donc, conversion, désir, attention, oui, mais une attention amoureuse à la présence de Dieu. C'est la seconde chose que le Seigneur nous demande, d'avoir. Le temps de l'Avent, ça doit être le temps du désir. Pensez à la Vierge Marie. Elle est encore là dans le temps de l'Annonciation. Elle a reçu ce message et elle attend avec ô combien de désir que cet enfant naisse, qu'il paraisse au grand jour. Elle écoute son cœur tous les jours, la Vierge Marie. Elle nous enseigne à faire de même. Le temps du désir de Dieu, voyez, c'est le temps aussi de chercher Dieu, parce que désirer, ça conduit à une recherche. Et là, je pense vraiment au Cantique des Cantiques, le prologue, les premiers versets, vous voyez. « Je suis noire et pourtant belle fille de Jérusalem. » C'est notre attitude. Nous savons que le Seigneur veut nous sauver. Alors, malgré la noirceur du péché, nous savons que notre âme a une beauté qui compte aux yeux du Seigneur au point qu'il viendra et qu'il prendra notre croix et qu'il se laissera clouer sur elle pour nous donner la vie. Nous avons confiance dans l'amour de Dieu. Ça doit être une condition sine qua non de l'avance. Ayons confiance en Dieu. On veut toujours, en tant qu'homme, et c'est normal, tout maîtriser, tout connaître d'avance, tenant et aboutissant avant de signer le contrat. Savoir exactement où on va et être tenu au courant, étape par étape. Ben, la vie spirituelle, ça ne marche pas comme ça, nous le savons par expérience. Nous devons croire en l'amour de Dieu. Ça, c'est le grand souffle qui anime l'espérance chrétienne. Toi, où es-tu, toi que mon cœur aime ? C'est curieux comme formulation, et très beau en même temps. Qu'est-ce que ça signifie ? Elle interroge son cœur pour trouver l'époux. Ça veut dire que cet amour de Dieu qui anime, qui devrait animer toutes les créatures, en réalité est caché au-delà de notre conscience psychologique. On dit d'une manière profane, tous les hommes ont le désir du sacré. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais enfin ça veut dire à peu près ça. Mais ça, c'est quelque chose. Notre cœur, le cœur de l'homme, aime Dieu. Il a été créé pour aimer Dieu. D'où l'horreur du péché lorsque ce cœur cesse d'aimer Dieu, lorsque ce cœur se révolte contre Dieu. C'est un blasphème qui ne peut pas être pardonné ni en ce monde ni dans l'autre, parce que ça va contre notre propre constitution, contre notre propre vérité. Mais l'épouse du cantique, par cette formulation, nous explique ce que nous devons faire en ce temps de carême. Écouter notre cœur. Notre conscience psychologique, elle est paresseuse. Bien sûr, nous l'avons éduquée dans la foi. Mais la conscience qui voit clairement les choses, comme Descartes, d'une manière claire et distincte, eh bien, elle ne voit pas Dieu et elle se fatigue vite. Elle devient vite inattentive. Notre cœur, lui, ne se fatigue jamais. Donc écoutons notre cœur, interrogeons-le comme le fait la bien-aimée du Cantique des Cantiques. Et elle demande, où conduis-tu, toi le bien-aimé qu'elle ne voit pas, où conduis-tu le troupeau ? C'est beau comme formulation, le troupeau c'est l'Église, ça évoque l'Église, les âmes que Dieu commande, que Dieu guide, le bon pasteur. Et ben, où conduis-tu le troupeau ? Et la réponse, mène tes chevreaux près des demeures des bergers pour le trouver. C'est pas l'époux qui lui répond, c'est l'Église qui lui répond, les jeunes filles de Jérusalem, et elles lui disent, ben, suis la tradition, suis les sentiers. Ben, les sentiers, c'est ceux qui ont été préparés, enfin fabriqués, forgés par d'autres. Les saints, par exemple, mais pas seulement les saints, les membres de notre famille qui avaient la foi et qui nous l'ont communiqué. Voilà les sentiers qu'il faut commencer par suivre si nous voulons découvrir le bien-aimé. Ensuite, il y aura la relation personnelle. Mais pour l'instant, eh bien, suivons les sentiers. Allons au désert trouver Jean-Baptiste, en un dernier mot. La tradition, depuis l'Antiquité, résume la vie théologale, la vie donc Dieu en nous, en trois voies. La voie purgative, la voie illuminative et la voie unitive. Là, ce que j'ai développé, c'est la première voie, la purification, la purgation, comme on disait autrefois. On se purifie donc pour être attentif et pour se mettre à la recherche de Dieu comme les mages. Ensuite, on est illuminé quand on rencontre l'époux. C'est l'agneau de Dieu que Jean-Baptiste désigne aux premiers disciples. Et ensuite, eh bien, il y a ce long travail qui conduit à l'union des volontés, à l'union des cœurs avec le bien-aimé Jésus-Christ. Voilà tout notre programme. Ben, concentrons-nous sur la première partie en ce temps de l'Avent. Plus nous serons fervents, plus notre illumination sera grande et plus notre union avec lui sera parfaite.